Parole du Seigneur ce matin. Et je. Pardon? Amen, oh merci. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans la première épître de Pierre. Au premier chapitre, nous lirons les versets 1 et 2. D'ailleurs, lorsque le Seigneur me permettra l'occasion de venir vous apporter la parole, vraisemblablement, nous demeurerons dans cet épître-là, soit que nous y allions de quelques glanures, c'est-à-dire que nous prenions quelques péricopes, ça et là, ou plus vraisemblablement que nous en ferons l'exposition systématique, puisque nous sommes, comme vous le savez, déjà engagés, déjà commis, si vous me passez un français douteux, à la prédication expositoire dans cette église. Maintenant, pour éviter toute appréhension, pour que tout le monde puisse être bien décontracté, je vais déboucler mon nœud papillon, comme ça, ben, vous serez rassurés, n'est-ce pas? Et en même temps, il fait un peu chaud, alors. Mais la fraîcheur s'en vient, n'est-ce pas? Et c'est pas l'automne qui va nous l'apporter, hein? J'apprécie les propos de notre frère Claude ce matin. Et j'aimerais dire, je pense au don de cette église, hein? Que vous n'avez pas été difficile à accueillir. J'avais déjà moi-même expérimenté à quel point vous étiez des gens de commerce agréable lorsque j'ai eu le privilège de vous servir pendant 6 mois. Alors, je pense que ça n'a pas été difficile pour l'Église de la capitale de vous recevoir et de vous considérer des nôtres. Et j'espère que vous nous considérez des vôtres et que nous sommes tous des nôtres, en quelque sorte. 1 Pierre, donc, chapitre 1, les versets 1 et 2, quoique nous flirterons brièvement avec le verset 3. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole, puisqu'il a cru bon de nous l'inspirer, de nous la donner. Bien important de comprendre que ce ne sont pas les écrivains bibliques qui ont été inspirés, mais que c'est la parole qui est inspirée. C'est véritablement la signification du mot « théopneustos », traduit par « inspiré », c'est-à-dire « soufflé hors de Dieu ». Alors ça, c'est la parole qui est inspirée. Je ne vous apprendrai certainement rien ce matin en vous disant que la vie, ce n'est pas une balade dans le parc. Hein? Ce n'est pas une promenade en forêt. Bien sûr que la vie a beaucoup de belles choses à nous offrir. A des plaisirs très grands, multiples même. Nous expérimentons effectivement, dans le cours des événements qui se succèdent, beaucoup de joie en cette vie. Mais nous savons que ce n'est pas le tout de notre vie. Il y a une autre facette, hein, et il y a une succession de saisons qu'on ne peut nier. C'est une vérité qui semble cependant difficile à comprendre pour plusieurs personnes qui professent la foi en Jésus-Christ, même pour plusieurs chrétiens. Plusieurs croyants ont de la difficulté à comprendre la complexité de leur identité et de leur appel en Christ Jésus. Plusieurs, en effet, tendent à croire que les seules expériences qu'on fait comme chrétiens, ce sont les joies nombreuses d'être parmi les sauvés, d'être parmi les élus. Et ça a donné toutes sortes de théologies. Par exemple, on va être enlevé avant la tribulation pour ne pas avoir à souffrir la tribulation. Et à l'extrême, ça donne l'évangile de la prospérité. Donc, vous avez certainement entendu parler, un chrétien, c'est quelqu'un qui prospère. Et s'il est malade, c'est parce qu'il manque de foi. Et on chante à gorge déployée, « Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. » Dans le sens qu'avec mon Dieu, tu n'auras pas d'épreuve. Tu n'auras rien qui vienne véritablement assombrir ta joie profonde, puisque la joie du Seigneur est ta force. Voyez-vous, c'est une méconnaissance, c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de ce que c'est véritablement un croyant. Ce genre d'évangile-là, bien sûr, enseigne une partie de la réalité, parce que c'est une réalité que nous sommes des sauvés, que nous sommes des élus et que nous sommes en conséquence au bénéfice de toutes les promesses divines, et la pléthore est énorme. Hein? L'éventail des promesses du Seigneur, il est impossible à inventorier tellement il est grand. Mais ce n'est qu'une partie. Il ne faut pas oublier que Nous sommes aussi, et c'est ce que nous enseigne l'Évangile, tant et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, en régime d'incarnation, nous sommes dans une condition d'exilés. Pierre, donc, avec trois petits mots tout simples, apporte un correctif dans cette seule salutation que nous retrouvons dans les versets que nous avons lus ce matin, et dans ces versets-là, il définit exhaustivement, et je dis bien exhaustivement, notre identité à titre de croyant, notre identité en Christ. Nous sommes des, quels sont les trois mots, élus, exilés dans la dispersion. C'est ce qu'il nous dit au verset 1. À ceux qui sont élus, hein, à ceux qui sont étrangers et dispersés, et là il mentionne tous les lieux d'où nous retrouvons la diaspora. Comment est-ce que cette phrase en arrive à décrire la véritable condition du chrétien de toute époque? Bien, la réponse est au verset 2. La préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent participants, hein, obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang du Seigneur Jésus-Christ. La préscience de Dieu fait de nous des élus. Il nous a élus selon sa préscience. La sanctification de l'Esprit, le mot sanctifié veut dire mettre à part, nous met à part, fait de nous des étrangers, en quelque sorte, et nous demeurons hors du monde en ce que nous vivons pour l'obéissance à Jésus-Christ. Et nous sommes tous là par notre participation à l'aspersion du sang du Christ. On dit que Jean est le théologien de la Bible, mais Pierre ici fait une théologie extraordinaire dans ces deux seuls versets. Et c'est ce triple aspect de notre identité qui explique, qui réconcilie deux vérités qui a priori semblent incompatibles. D'abord, notre statut en Christ qui fait que nous sommes effectivement des fils et des filles de roi. Hein, il y a eu une théologie il y a quelques années qui circulait en disant « Nous sommes des king's kids, des fils de roi et nous devons vivre dans l'abondance et hein, avec tout ce que cela implique. » Effectivement, nous sommes des fils de roi, nous sommes des élus, n'est-ce pas? Nous avons été choisis par le Christ comme nous le verrons tout à l'heure. Et la deuxième vérité, nos souffrances terrestres. D'une part, oui, nous sommes enfants d'un royaume de lumière, et en même temps, d'autre part, il y a encore les souffrances terrestres. Dans l'Écriture, l'élévation passe par l'humiliation. Vous aurez peut-être noté cela. La restauration vient après l'épreuve. Hein? C'est l'apôtre Pierre lui-même, un petit peu plus loin, au chapitre 5, verset 10, qui nous dira « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, etc. etc. » Alors, la restauration vient effectivement après l'épreuve. En d'autres mots, c'est une vérité que l'apôtre fait ressortir ici, dans cette péricope-là, et dans les versets qui suivent, dans les versets 3 à 12, que nous verrons dans un autre moment. Mais dans les versets 3 à 12, il nous est présenté le but futur du salut, dans les versets 3 à 5, et le fait que ce but-là s'érige sur les épreuves présentes, versets 6-9, aussi bien que sur les gloires du passé, versets 10 à 12. Et ça, c'est l'essence même de la lettre que Pierre écrit aux chrétiens d'Asie mineure, aux chrétiens de la Turquie d'aujourd'hui, là, pour les encourager, pour les rassurer, alors que s'amorce pour eux une saison de persécution. Et c'est ce qui rend, je vous le suggère, cet épître encore plus actuel pour nous. Pour nous, dans notre contexte présent, qui voyons les nuages d'un orage antichrétien se profiler au-dessus de nos têtes. En fait, c'est plus qu'un orage qui se profile, c'est un changement climatique spirituel. Nous avons vécu un bel été, un long été comme chrétiens, où nous jouissions pendant plusieurs décennies du haut du pavé, mais maintenant, il en va tout autrement. Vous savez, lorsqu'on assiste à ce que nous assistons présentement, puis je ne veux pas être redondant, mais lorsque vous voyez des gens défiler de manière, des défilés impunément en désobéissance civile, flambant nu, au centre-ville de Montréal, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que nous, chrétiens, qui sommes les tenants de la loi et de l'ordre, on ne peut pas croire qu'on ne sera pas bousculé devant une telle manifestation massive et publique d'un changement de condition sociale. Je lisais hier, et ça m'a à la fois amusé et stupéfait, je lisais sur le napperon du restaurant où nous mangions, alors que nous avions notre déjeuner d'homme, qui d'ailleurs, le pasteur Jacques nous apportait un très beau partage, je lisais sur le napperon, je ne sais pas si vous avez fait comme moi, cette citation de Patrick Sébastien. Je vous la lis, c'est quand même intéressant. « Dès qu'ils apprennent qu'on va déshabiller leur carapace, ils rougissent. Je serai toujours fasciné par les pudeurs des homards. » Les homards sont devenus plus pudiques que les êtres humains, semble-t-il. Enfin, je voulais vous le mentionner parce que je trouve ça subtil. Nos plus profonds besoins, frères et sœurs, appellent nos croyances les plus profondes. Amen. La raison pour laquelle on est si centré sur la théologie, qui est une systématisation en quelque sorte de la révélation de Dieu, c'est que nos besoins sont nombreux et sont criants et profonds. Et nos plus profonds besoins appellent nos croyances les plus profondes. Savoir qui nous sommes nous dicte comment agir. On le disait à l'époque, on est ce qu'on mange. C'est vrai spirituellement aussi. Ce matin donc, nous allons considérer notre identité en Christ à partir de cette triple expression que l'apôtre Pierre utilise, et ce seront mes trois points. Les chrétiens sont des élus, les chrétiens sont des étrangers, et les chrétiens sont dispersés. Dans un premier temps, les chrétiens sont des élus. Je sais ici que pour la plupart d'entre nous, nous sommes un territoire connu. Nous avons une assez bonne familiarité avec la doctrine de l'élection, mais permettez-moi d'en faire un survol quand même. C'est intéressant parce que vous savez qu'à CFOI, on vient de terminer le chapitre 9 et je pensais avoir plus de réactions que cela, mais ça s'est bien digéré, semble-t-il, sauf que j'ai reçu quand même un courriel qui disait « Monsieur Perron, est-ce que vous croyez que des gens sont élus pour le salut? » Non. La Bible le dit, par exemple. Hein? Alors que je le crois ou je ne le crois pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est ce que la Bible nous raconte. Oui? Alors, nous sommes des êtres élus. Nous dit l'apôtre Pierre. Nous sommes des éclectoi, au pluriel, éclectos au singulier, pour employer le terme biblique, qui a donné en français le mot éclectique. Quelqu'un qui est éclectique, c'est pas quelqu'un qui prend tout, hein? Il fait des choix, quelque part. Il est sélectif, en quelque sorte. À noter que l'apôtre Pierre ne nous dit pas que nous sommes des électeurs, que nous n'avons pas élu Dieu, mais que nous sommes des élus et que Dieu a été l'électeur. C'est lui qui nous a élus. Le verbe « élire » et le verbe « choisir » sont des synonymes. D'ailleurs, dans 1 Pierre 2:9 que nous avons lu ce matin, c'était, je pense, notre frère Paul, nous lisons en effet ceci. 1 Pierre 2:9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Et l'apôtre Pierre est en train de procéder à une citation du livre du Deutéronome, qui fait référence, bien sûr, à l'élection d'Israël. Et je trouve que c'est très subtil de sa part d'avoir ainsi fait. Deutéronome chapitre 7, j'y tourne rapidement, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais faites-le si vous voulez. Deutéronome chapitre 7, les versets 6 et 7. « Car tu es un peuple saint, un peuple mis à part. » On sait qu'Israël avait été élu, non pas à salut, mais avait été élu pour des privilèges particuliers, alors que nous, de la Nouvelle Alliance, nous sommes effectivement élus pour le salut. Le Seigneur a dit que dans la Nouvelle Alliance, je ferai alliance avec mes élus. Donc, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi, t'a élu, pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Écoutez bien, ce n'est point parce que vous surpassiez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que l'Éternel a choisi souverainement de vous accorder sa faveur. C'est pas parce que vous êtes un bon peuple, un gros peuple, que vous avez l'air plus brillant que les Philistins à côté. C'est parce que l'Éternel, pour des raisons qui lui appartiennent à lui et à lui seul, a décidé de vous accorder sa faveur. Point à la ligne, paragraphe. Le Nouveau Testament est plein également de ce genre de pensée corollaire. On pense au Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Que dire de ce que nous retrouvons, frères et sœurs, dans l'introduction de l'Épître aux Éphésiens? Lorsqu'il nous fait mention de tout le catalogue des bénédictions qui sont nôtres, pourquoi est-ce que ces bénédictions sont nôtres? Parce que Dieu nous a placés en Christ Jésus. Il nous dit qu'avant la fondation du monde, il nous a élus. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Est-ce que c'était sur la base des choses qu'on avait faites? Avant la fondation du monde. Et comme on dit souvent, puis je vais mal répéter, s'il ne nous avait pas choisis avant, pensez-vous qu'il nous aurait choisis après? L'élection, c'est quelque part tout à fait semblable à la prédestination. Être élu, c'est avoir été prédestiné. C'est-à-dire que notre destination avait été choisie avant. Vous vous présentez au comptoir d'Air Canada, et vous, ou de votre compagnie aérienne favorite, et vous dites, je voudrais un billet, acheter un billet. Qu'est-ce qu'on vous demande? Pour quelle destination? Et vous dites, pauvre, ça importe peu. Oui. Avant d'acheter un billet, avant de partir, il faut savoir où on s'en va. Alors, il y a une prédestination. La destination est choisie avant. Et c'est précisément ce que Dieu a fait avant même qu'on soit là, avant même la fondation du monde, alors que Dieu était pleinement satisfait en lui-même à l'intérieur de son conseil trinitaire. Il a pris une décision, il nous a choisis et il a décidé de notre destination. La source de l'élection maintenant, la préscience de Dieu le Père. Ah là, les gens disent, là, je vous ai présenté. La préscience. Il savait avant, le disent-ils. Il savait avant qu'on allait l'accepter. Hein, vous avez entendu cet argument-là très souvent. Vous savez, avec tout respect pour les gens qui sont les tenants de cette pensée-là, c'est pas une réflexion qui est poussée très, très loin. Quel genre de Dieu servons-nous? Est-ce que nous avons un Dieu qui, comme nous, est soumis au temps? De sorte qu'il a fallu, pour savoir ce qui allait arriver dans le temps, qu'il sorte sa boule de cristal ou qu'il consulte Mme Minou là, de l'horoscope, je ne sais pas trop quoi, et qu'il aille voir dans le futur quels seraient ceux qui l'accepteraient et qui, là, il dirait, OK, ils vont m'accepter, donc je les accepte. À ce moment-là, c'est Dieu qui aurait été élu, hein, et il n'aurait fait qu'entériner sa propre élection. Mais Dieu a créé l'espace. Et tout ce qui existe dans l'espace a été créé par Dieu. Dieu a créé le temps et toutes les circonstances et les événements qui prennent place dans le temps ont été créés par Dieu. Rien n'échappe à sa souveraine gouverne avant la fondation du monde. Pourquoi est-ce que Dieu savait? Parce que c'est lui qui avait mis ça dedans. Alors, il n'a pas deviné, il n'a pas prévu, il savait. Le mot ginosko, le verbe connaître, en hébreu le yada, c'est la même signification, n'a pas l'idée... La plupart du temps, surtout quand tu fais référence à Dieu, d'avoir des informations privilégiées sur des circonstances particulières, mais veut dire littéralement aimer. Ce que Dieu a aimé d'avance. Romains 8, 29. Ce qu'il a connu d'avance, qu'est-ce qu'il a fait avec? Hein? Il les a sanctifiés, il les a justifiés, il les a appelés. Bon, et nous avons tout leur dos salutiste. Même chose. Avec le mot yada, qui est le corollaire hébraïque de ginosko, qui est traduit par connaître. Hein? Le grand classique, c'est Genèse 4, 1. Adam connut Ève et elle enfanta. Alors, ça a dû aller plus loin, il lui dit, bonjour, mon nom est Adam, quel est le tien? Hein? Il l'a connu, il lui a accordé sa faveur, il l'a aimé, et effectivement, elle a enfanté quelqu'un. Vous voyez? Il lui a accordé sa faveur particulière. La sphère de l'élection maintenant, en fait, à propos du pro-ginosko, du mot préscience, j'aime beaucoup, beaucoup ce que nous retrouvons en Actes chapitre 2, verset 23, et je demande toujours ça à mes étudiants à la fac. Quel est le plus grand crime de l'humanité, hein, qui a été commis dans l'histoire de l'humanité? Bien sûr, c'est la crucifixion du Fils de Dieu. C'est la mise à mort, avec un procès bidon, une mise à mort tout à fait injuste du Fils de Dieu. Pourtant, nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 23, parlant de Jésus, « Cet homme, c'est Pierre qui parle, cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu. » Et là, Pierre, il fait un hébraïsme, hein, il fait un parallèle, il donne un synonyme. « Cet homme arrêté selon... livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la préscience de Dieu. Il a plu à Dieu qu'il en soit ainsi pour opérer notre rédemption. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous voyez, ça n'enlève pas la responsabilité humaine, mais ultimement, c'est la souveraineté divine qui gouverne toutes choses. La sphère de l'élection maintenant, c'est la sanctification de l'esprit. C'est-à-dire, tout ce que l'esprit produit en nous, à commencer par la conviction. Le ministère de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas d'essayer de venir nous convaincre, c'est de convaincre. Ah, je n'ai manqué un autre, hein? Oui, si c'était d'essayer de nous convaincre, pauvre Saint-Esprit, il n'y aurait pas un très, très bon record, hein? Parce qu'il y en a plus qui ne viennent pas qu'il y en a qui viennent. Non, le ministère de l'Esprit de Dieu, c'est de convaincre, et il ne manque pas son coup. Hein? Il convainc tous ceux qui ont été mis à part par Dieu avant la fondation du monde, que le Christ est venu racheter par son sacrifice parfait dans le cours du monde, et il vient appliquer tous les bénéfices de la rédemption. Et parmi les bénéfices de la rédemption, il y a celui de la foi, parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on fournit, c'est un don qui nous vient de Dieu, donne foi, Dieu donne foi et donne repentance. J'ai une couette, n'est juste une, mais je l'ai, puis elle me chatouille, m'excuse. Est-ce qu'il est correct, là? Vous savez ce que disait Saint-Augustin concernant la conviction de l'esprit? Quelqu'un disait, l'esprit ne vient pas nous violer notre volonté. J'ai aimé ce que notre frère André disait dans sa prière tantôt. Nous sommes ici, Seigneur, parce que tu nous as séduits. C'est ça le mot. C'est véritablement le mot que nous retrouvons, le mot « pata » en hébreu que nous retrouvons dans Jérémie chapitre 20, verset 7, qui est traduit par « Tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi et tu m'as vécu. » Persuader, littéralement, veut dire « séduit ». C'est ce qui faisait dire à saint Augustin que la conviction de l'esprit, ce n'est pas une persuasion. À force de m'obstiner avec, je vais venir par le convaincre. Oui. Alors, ce n'est pas une persuasion, c'est une suasion, suasio. En latin, c'est une œuvre que l'Esprit de Dieu opère sur la conscience. Et j'aime le mot « séduire » parce que c'est vraiment cela. Hein? Le garçon qui arrive, vous voyez, Peter qui arrive auprès d'Iliane et qui parle à son cœur, et il la gagne, gagne son cœur. L'Esprit, il sait parler à nos cœurs. Il sait faire en sorte d'avoir une approche telle que ça devient irrésistible. Et nous venons à lui. Tu m'as séduit, Seigneur, tu m'as gagné. L'Esprit opère donc cette conviction, cette foi, cette repentance, cette régénération, cette sanctification, etc. Et l'Esprit ne s'arrête pas en cours de route. Celui qui commence en nous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite. On ne peut pas s'arrêter à la justification. Les gens là, qui ont cette doctrine bebête, là, qu'on peut recevoir Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, mais pas comme Seigneur, c'est bebête. Parce que le même Jésus qui nous justifie, hein, il nous sanctifie, il nous sauve, il nous fait grandir dans l'obéissance et il nous amène jusqu'à la gloire. Alors, il finit son œuvre. Le mot « agiasmos » veut dire « mis à part ». Le mot « sanctifié » veut dire « mis à part ». L'effet de l'élection maintenant, parce qu'il y a un effet de l'élection. Il y a un signe vital lorsqu'on reçoit la vie. Généralement, d'ailleurs, on le voit dans la parole de Dieu, lorsque Lazare a été ressuscité, il est sorti de sa tombe, il n'est pas resté là. Un signe vital, on sort de son tombeau lorsqu'on ressuscite. Alors, l'effet de l'élection, c'est l'obéissance à Jésus-Christ, de nous dire l'apôtre Pierre. L'obéissance de la foi, pour reprendre les propos de Paul dans Romains chapitre 1, verset 5. J'aime beaucoup et je me limiterai à ce simple argument, ce que nous retrouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 2 à 10. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Il le sait parce qu'il y a les signes vitaux. Alors, on voit très, très, très clairement que vous avez été élus à la vie parce qu'on voit les signes vitaux. Hein? Et là, il continue. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, etc., etc. Bien sûr que notre obéissance, tant et aussi longtemps que nous serons ici-bas, demeurera imparfaite. Mais elle est réelle. Et je veux croire qu'elle est croissante. Elle est croissante parce que cette vie reçue ne peut pas ne pas se développer. Nous avons été élus pour servir à la louange de sa gloire. Nous avons été élus pour être des épîtres lus. Nous avons été élus pour Dieu, pour servir à la louange de la grâce de sa gloire. La sécurité de l'élection maintenant, c'est la participation à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On n'a pas d'autre assurance que cela. Notre assurance ne vient pas du fait que j'ai une volonté de faire, que quand je prends une résolution, puis je la tiens, pas du tout. Notre assurance vient du fait que nous sommes participants de l'aspersion du sang de Jésus, que notre dette envers Dieu, elle a été pleinement et entièrement payée par le sang du Christ Jésus, et que jamais Dieu viendra nous collecter à nouveau. Beaucoup trop honnête pour cela. Tout a déjà été payé. Le Christ en croix l'a dit d'ailleurs. Tout est accompli. Puis regardez, à cet effet-là, on pourrait sonder à moult reprises l'Épître aux Hébreux et d'y voir tout l'accomplissement que le Christ a fait, qu'il est véritablement l'agneau sans tache. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, de ceux qui se confient en lui. Et dans Matthieu, lorsqu'on prend la communion et qu'on lit la péricope de Matthieu, chapitre 26, versets 27-28, il nous a parlé du sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Une efficacité éternelle pour récurer toute trace de saleté dans nos cœurs, de sorte que nous sommes entièrement purs de position. Et si on ne l'est pas complètement de condition, on y vient. C'est ce que nous appelons effectivement la sanctification progressive. Les privilèges de l'élection, l'apôtre Pierre les mentionne, grâce et paix en multiplication. Grâce et paix, toujours en plus grande mesure. Plus nous grandissons en Christ, plus nous intimisons notre relation avec lui, plus nous jouissons de cette paix avec Dieu, le shalom. La paix, ce n'est pas l'absence d'hostilité, bien au contraire. La paix, le shalom divin, c'est cette espèce de relation que nous avons avec Dieu. Une relation de grande intimité dans laquelle il nous communique effectivement tous ses bienfaits. La grâce, c'est la faveur divine qui penche ses regards bienveillants sur nous, et la paix s'en est la conséquence. Donc, la première caractéristique de notre identité, nous ne faisons plus partie de la masse. La masse. Nous faisons partie de l'élection, du reste de l'élection. Voyez-vous, pour le monde, c'est extrêmement important de fonctionner sur une éthique de statistique. Il y a 60% des gens qui croient que, donc voici une vérité, on va faire une loi. Il n'en va pas ainsi dans le monde spirituel. Nous faisons partie du reste de l'élection et notre grille de lecture n'est pas la masse, mais la révélation de Dieu. Quel encouragement devant nos nombreuses perplexités face au carrousel des expériences de tout niveau de nos vies. Nous sommes capables, en effet, vous savez, à moins que je sois unique dans ce sens-là, de nous lever le matin dans une louange joyeuse et une heure plus tard, nous sommes dans le fond du pit. On se lève, ça va être une journée, alléluia, on voit ça dans Jérémie aussi, James? À un moment donné, loué soit Dieu, puis là, il est dans une louange extraordinaire, puis le verset d'après, maudit le jour où je suis né, ça procède moi de les deux. On est également comme cela, et ça prend pas grand-chose pour nous faire tomber de la branche, pour nous faire descendre du piédestal. Nous sommes des êtres d'une très, très grande fragilité. On sent qu'on est capable de faire face à toute tentation, puis à un moment donné, la moindre vétille, puis on s'enfange, et voilà. C'est encourageant de savoir que nous sommes une race élue, que nous sommes au bénéfice de l'aspersion du sang de Jésus, et que nous avons ce statut de justifié irrévocable. Nous passons par toute la gamme des émotions. C'est important de savoir que nos émotions ne nous donnent pas leur juste. Ça, c'est une école de vie qui prend toute la vie à apprendre. Nos émotions ne nous donnent jamais leur juste. Nos émotions sont des menteuses. Est-ce que je peux aller plus loin? Des maudites menteuses. Non, c'est vrai, parce que le mensonge, c'est maudissable. Nos émotions nous trompent. Nos émotions ne sont pas des interprètes fiables. Nos états d'âme, tellement souvent artistiques et fluctuantes, ne peuvent d'aucune façon représenter une grille de lecture sur laquelle nous pouvons nous reposer. D'où l'importance, comme je l'ai prêché à Saint-Jérôme la semaine dernière, et j'ai noté que c'était sur CFOI ce matin à 9h, d'où l'importance de penser théologiquement, et non pas à partir de nos émotions, ou de nos passions, ou de nos ambitions, ou de quoi que ce soit d'autre. J'ai été blessé dans le passé, j'ai eu ci, non, mais là, tu réagis plus à partir de tes blessures passées, à partir de maintenant, tu réagis à partir de la parole de Dieu. Et ça m'amène à mon deuxième point. Je pense que je vais remettre ma boucle, ça va être long, je pense. Nous sommes des élus, mais nous sommes des élus étrangers. Ça a l'air un peu paradoxal, a priori. Nous ne sommes pas étrangers parce que le monde nous a rejetés, mais nous sommes étrangers parce que Dieu nous a élus. Et c'est pour ça que le monde nous rejette. Le mot qui est traduit par « étranger » ici, c'est le mot paridédémos, qui fait toujours référence à un résident temporaire dans une terre étrangère. Nous ne sommes pas des immigrants sur la terre. Nous sommes des réfugiés. Nous sommes des étrangers. Un immigrant s'assimile. Pas un étranger. Il est de passage. Il est là temporairement. Il va retourner chez eux tôt ou tard. Il prend pas de racines. Il est de passage seulement. Dans Hébreux chapitre 11, verset 13, faisant référence à Abraham et aux patriarches, nous lisons ce qui suit. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Nous avons, dans cet épître de Pierre, chapitre 2 qu'on a lu tantôt, verset 11, il nous est dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, alors même que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. » Je n'ai pas le bon verset. Verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Alors, nous retrouvons encore une fois le mot « paradidémos », mais il y a un autre mot aussi, « étrangers et voyageurs sur la terre. » Le mot « voyageur » est un mot qui est aussi intéressant et qui fait référence au fait que nous sommes là temporairement. « Paroikos », « paroikos », pluriel. « Paroikos », ça donne en français le mot « paroisse ».« Para »,« oikos ».« Oikos », une maison paratemporaire. Hein? Une paroisse, on n'est pas là éternellement, c'est temporaire. Alors, nous sommes effectivement des gens qui vivons temporairement dans ce monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas nécessairement de la planète dans son cosmos. On parle de cette culture ambiante opposée à Dieu. Bon, bien sûr que le reste va être refait aussi, va être restauré, mais quand on parle du monde de manière négative, c'est principalement cette philosophie de pensée qui est opposée à Dieu. Donc, l'apôtre Pierre reprendra dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 13, alors qu'il nous parle du monde à venir, où la justice, dit-il, habitera. Ah, ben tiens, la justice va habiter. Est-ce que c'est par oikos, là, par oikeo? Non, c'est kata oikos. Va habiter permanemment, une maison permanente. Notre maison permanente, elle n'est pas ici-bas, mais elle est dans l'au-delà. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ça, c'est la tension entre le sectarisme et l'assimilation. On est constamment en tension. On est dedans. On ne peut pas faire autrement. Hein? On mange comme tout le monde, on roule des autos, on s'instruit, on s'habille, etc. On habite quelque part. Alors, on fait partie, mais on n'est pas dû. On n'a pas la même pensée que le monde. Nous sommes des étrangers. C'est dire que le langage, les valeurs, les coutumes et les attentes de ce monde nous sont étrangères. Permettez-vous de répéter ça? Le langage, les valeurs, les coutumes et les attentes de ce monde nous sont étrangères. Pourquoi? Parce que quelque chose de radical nous est arrivé, qui nous est mentionné au verset 3, hein? « Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Nous avons reçu une vie, nous vivons dans une autre sphère. Nous avons reçu une espérance vivante. Nous vivons dans un autre monde, une autre sphère de vie, un autre genre d'existence que la poursuite du temporaire et de l'éphémère. Pour nous, comme étrangers, La chose la plus importante, ce n'est pas notre relation avec la terre, malgré qu'elle ait son importance, mais ce n'est pas la plus importante. La chose la plus importante, c'est notre relation avec le ciel. Notre première citoyenneté, elle est dans les cieux. Notre passeport le plus évident, le plus impressionnant, c'est celui du ciel. Notre première citoyenneté est dans les cieux et non au Québec ou au Canada, même si on est heureux de nous y trouver. Notre première et ultime constitution, c'est la Bible et non la Charte canadienne. Et notre première roi, c'est le Christ Jésus. Ceci dit avec tout respect pour les autorités gouvernementales en place pour lesquelles nous sommes appelés à prier et auxquelles nous sommes appelés à nous soumettre dans la mesure où ils ne nous demandent pas de faire des choses en contradiction avec notre charte ultime, qui est la Bible. Et Dieu va pourvoir à nos besoins dans la terre étrangère du monde si nous orientons notre vie sur le royaume de Dieu, sur ses valeurs, sur ses buts et sur sa justice. Nous sommes des étrangers. Et il est impératif que nous vivions comme tels. Oh, que Dieu nous préserve de perdre notre statut d'étranger et de prendre une citoyenneté qui n'est pas nôtre. Quelle tragédie lorsqu'un étranger tombe en amour avec le monde. Je ne sais pas si on peut trouver un passage plus triste dans toute la parole de Dieu que ces paroles de l'apôtre Paul que nous retrouvons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10, paroles horribles, paroles épouvantables, qui vont comme suit. « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » L'étranger est tombé en amour avec la terre étrangère. Il a perdu son statut d'étranger. On ne sait pas ce qui s'est produit après. Mais que c'est pathétique. C'est une tragédie énorme. Quand un professant rejette la vie de foi et le monde futur, renonce à sa citoyenneté et vit pour le monde présent, manifestement, il n'y a jamais eu de nouvelle naissance. En même temps que cela nous rappelle l'importance d'affermir notre élection et notre appel. Parce qu'il n'y a aucune assurance hors de la persévérance. Personne, quelle que soit la profession de foi faite dans le passé, quelle que soit l'éthique qui s'est pu manifester, n'a droit à l'assurance hors de la persévérance. C'est l'aujourd'hui qui importe. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 1, verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » L'élection ne peut jamais servir de prétexte à la témérité et à la négligence. « Oh, je suis élu. » Jamais. L'indulgence de la chair, c'est la route vers l'apostasie. L'indulgence de la chair, c'est la route vers l'apostasie. Toute indulgence de la chair est un premier pas vers l'apostasie. Cependant, vivre comme des étrangers dans le monde, ça c'est le pavage de la route du ciel. Si quelqu'un choisit d'être chez lui dans le monde, d'aimer le monde, d'accorder sa faveur au monde, de prioriser le monde, va périr avec le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. » Le monde et l'Église, ce sont deux entités mutuellement exclusives. Jean chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et ça m'amène à mon troisième point. Les chrétiens sont des élus, étrangers et dispersés. Familier peut-être avec le mot dispersé, le mot diaspora. On parle de la diaspora concernant qui? Concernant le peuple juif de l'époque. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient dispersés. Pierre en parle ici. Apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont dispersés dans le pont, puis là, il nomme les endroits où ils sont. Bien sûr, ce n'est pas uniquement des juifs. mais ça inclut également des gentils, c'est-à-dire des croyants, qui sont non-juifs. Les juifs à l'époque, quand on parlait de la dispersion juive, avaient été dispersés parmi les nations, hein? Ainsi en est-il de l'Église qui est dispersée un peu partout dans le monde. Voyez-vous, on ne forme pas un ghetto chrétien. Alors on sort tous les chrétiens du monde et on les met tous les mêmes à la même place. On va les sécuriser. Hein? Ils vont sentir leur enfermé, mais on va les protéger contre l'extérieur. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu. On ne forme pas un ghetto chrétien. On ne s'enferme pas dans des monastères. Mais nous sommes dispersés dans le monde. Et ça, ce concept de dispersion, le fait que nous sommes des élus étrangers dispersés, ça nous aide à élargir notre vision. Dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, le Québec, l'Afrique, les États-Unis, avec des situations particulières à vivre. Dans certains cas, des gens vont vivre sous une persécution sévère, rageuse, écumante. Dans d'autres situations, il y a une paix temporaire relative. Dans d'autres, c'est l'athéisme rampant. Dans d'autres, c'est une ambiance d'immoralité. On est dispersé dans tout cela et chaque croyant, quelque part, a des combats auxquels il doit faire face. Dans d'autres régions, les chrétiens vont être exposés à une saison de réveil. Oui. Mais ce n'est jamais perpétuel. Hein? Nous sommes tous des élus étrangers dispersés qui vivons des situations souvent, parfois, qui sont difficiles. Et notre tentation, c'est quoi? C'est de dire, c'est plus difficile aujourd'hui. C'est plus difficile aujourd'hui. Un des premiers arguments que les ados présentent à leurs parents, c'est plus comme dans votre temps. Comme si les humanoïdes d'Australopithecus qu'on est n'étaient plus pareils comme avant. On est exactement les mêmes. C'est plus comme avant. On dit, on est une jeune église. On n'est pas nombreux. Ouais. Etc. On tend à trouver toutes sortes d'excuses pour vivre un christianisme de seconde classe. Mais moi, je suis célibataire. Mais moi, mes circonstances présentes, là, mais là, j'ai mon travail. Hein. Mais maintenant que j'ai une famille, c'est plus pareil. Voyez, bon, toutes sortes d'excuses. J'aime beaucoup, pour bien montrer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, faire appel à notre bon ami Enoch. Vous connaissez Enoch? Vous vous souvenez d'Enoch? Il nous est dit dans Genèse, Enoch, après la naissance de Methuselah, que nous appelons aussi Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans. C'est une longue marche, ça, mes amis. Hein? Nous, on a fait 20 ans, puis on a dit, hâte qu'ils reviennent. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de ses fils. Ça, c'est à part du temps qu'il a marché avec Dieu avant. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Genèse 5, 22-24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch a marché avec Dieu. Ça, si vous regardez dans le calendrier, là, vous ne trouverez pas la date de naissance puis de mort d'Enoch. C'est avant que le calendrier existe. Ça fait très, 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 très longtemps. Début de l'histoire. Alors, on va dire, oui, c'est plus pareil, parce qu'Enoch, lui, il vivait dans un beau contexte. Tout le monde allait à l'église à l'époque. Les gens étaient très, très bien parce que ça ne faisait pas longtemps que la création avait été faite. Hein, et les gens étaient très, très gentils. Ils aimaient beaucoup Jésus. Est-ce que c'est dans un contexte comme cela que Enoch a fonctionné? Bien, je vous invite à considérer ce que nous dit Genèse 6, 5. L'Éternel vit sur le moment d'Enoch, ça, juste après Enoch, que la méchanceté des hommes était grande sur toute la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, les brassées de casseroles nocturnes n'ont rien inventé. Les pensées de leur cœur se portaient tout le jour contre le mal. Ils avaient le même cœur dépravé que nous avons parce qu'ils étaient également des descendants d'Adam, aux prises avec la dépravation, et ils manifestaient leur dépravation. Là-dedans, il y a un bonhomme qui s'appelle Enoch, qui élève une famille et qui marche avec Dieu pendant 300 quelques années. Ça Ça fait aussi sortir, frères et sœurs, le caractère universel du christianisme. Le même évangile, quel que soit le temps, le lieu, les circonstances, demeure pertinent. C'est le même évangile, avec la même puissance, avec le même contenu de consolation, avec le même pouvoir de transformation et de restauration. En conclusion, nous avons ici, dans cette salutation que l'apôtre fait, nous avons la carte de visite du chrétien. Un élu exilé dans la dispersion. Et cette description synthétique, mais détaillée, donne le ton à notre manière de vivre, à notre façon de nous comporter dans le monde. Comment on va approcher notre marche dans le monde? Quel genre de modus operandi, de modus vivendi allons-nous adopter à la lumière de cela? Comment allons-nous approcher la question de notre pèlerinage terrestre? Allons-nous fuir le monde, devenir des espèces d'intégristes, de fondamentalistes radicaux cachés? Allons-nous combattre le monde? Former des partis politiques chrétiens, on va combattre le monde! Allons-nous nous conformer au monde? Mais je suis dedans, je suis bien prendre la forme. Hein? La Bible est claire là-dessus, Romains 12. Ne vous conformez pas, soumorphez, avoir la même forme qu'eux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence s'opère par la parole de Dieu appliquée par l'Esprit. Allons-nous changer le monde? Comment est-ce qu'on change le monde? Oui. Par la prédication. Si on veut faire quelque chose pour changer le monde, c'est par la prédication. Ça peut dire qu'il n'y a pas une place pour un certain lobbying. Mais notre marche, notre réaction vis-à-vis du monde, hein, je pense que la description que Pierre nous en fait nous donne une idée, une signification plus profonde de notre identité et de notre appel. Nous sommes dans ce monde comme des élus étrangers et dispersés. Et cela dicte notre éthique. Notre manière de faire. Jésus, dans chapitre 17, versets 15 et 16, nous dit, dans sa prière sacerdotale, il ne dit pas ça à nous, il parle à son Père, un moment d'une grande intimité. Si vous n'avez pas lu Jean 17, depuis un petit moment, faites-le. Faites-le en prenant bien, en ayant égard au contexte. C'est un des plus beaux moments de toute la révélation de Dieu. La révélation de Dieu qui nous lève le voile sur un petit moment d'intimité entre Dieu le Père et le Fils, qui ne sont qu'un. Lève le voile, et on voit le Fils qui lève la voix et les yeux vers le Père, et qui intercède. C'est un des plus grands moments, des moments les plus glorieux de la révélation de Dieu. Où nous voyons les deux premières personnes de la Trinité dans cette espèce de concile, dans ce dialogue. C'est absolument extraordinaire. Et Jésus de dire au Père, je ne te prie pas. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 31, que nous sommes ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Hein, et c'est bien dit, parce qu'effectivement, on use du monde, on est encore dans la chair incarnée, on a encore des besoins d'être incarné, mais on use du monde comme n'en usant pas. Ce monde n'est pas une fin en soi pour nous, c'est temporaire. Bien sûr. Paul dira à Timothée, hein, qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Dieu qui nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. L'apôtre Jean dira dans sa troisième épître, hein, « Je veux que tu prospères en tous égards et que tu sois en santé comme prospère l'état de ton âme. » Bien sûr que nous vivons dans le monde et que nous ne renonçons pas à des choses qui sont tout à fait licites. Cependant, on en use comme n'en usant pas. Ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre fin. Nous ne carburons pas à la mondanité, si vous me passez l'expression. Dans un deuxième temps, nous sommes également ici pour faire la promotion du royaume. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Monsieur Soukou, nous sommes des... Vous êtes ambassadeur, vous, quelque chose, hein? Alors, c'est ce que nous sommes pour le Christ, en ce monde. On représente notre royaume dans ce monde où nous sommes étrangers. Et nous parlons des bienfaits et des richesses de ce royaume-là auquel nous appartenons, afin que d'autres élus et d'autres brebis qui ne sont pas encore de la bergerie puissent entendre la voix du bon berger. Chers élus, chers étrangers, chers dispersés, je reprends, chers co-élus, chers co-étrangers, chers dispersés, que le Seigneur nous donne de vivre ce que nous sommes, à sa plus grande gloire. Amen.